Bonsoir à tout le monde. J'aimerais vous demander d'imaginer avec moi une bande dessinée que j'ai vue il y a très longtemps. Il n'y avait que deux images en fait, deux dessins. Et dans le premier de ces dessins, il y a le mari qui parle à sa femme de manière très pompeuse et lui dit: ma chérie, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je suis prêt à mourir d'une mort atroce au combat pour te sauver la vie. Je suis prêt à quitter mon travail, à vider mon compte en banque pour te sauver du danger. Tu ne peux pas imaginer un sacrifice trop grand pour que je le fasse pour toi. Et puis, dans le deuxième dessin, il y a la femme harassée au milieu d'un grand bazar. Et elle dit à son mari: chérie, je ne demande rien de tout cela. Tout ce que je veux, c'est de l'aide pour faire la vaisselle et le ménage. Alors, de quoi est-ce que ça parle? Alors, peut-être ça parle de l'hypocrisie du mari qui déclare aimer sa femme jusqu'à la mort, mais qui n'est pas prêt à l'aider avec la vaisselle. Mais je ne suis pas là pour parler au mari ce soir. Je crois que ça souligne aussi quelque chose en lien avec notre thème ce soir. Et c'est cette idée, ou cette question plutôt: quel sens donner à un sacrifice inutile? Quel sens y a-t-il dans un sacrifice jugé inutile? Et pour nous aider avec ça, je vais vous inventer deux autres histoires. Dans la première histoire, il y a un mari qui voit un terroriste venir vers sa femme avec un couteau à la main. Alors, ça ne doit pas être très difficile à imaginer, ça s'est arrivé déjà ici à Paris. Et le mari voit cet homme venir vers sa femme et il crie: « Chérie, je t'aime !» Et il saute devant l'homme, il prend le couteau dans sa poitrine et il meurt. Et sa femme a le temps de se sauver. Et il est exalté comme un héros qui a donné sa vie pour sa femme. Et puis il y a un deuxième mari qui entend cela, il se dit: tiens, moi aussi j'aimerais montrer à tout le monde que j'aime ma femme. Et donc un jour il se promène sur le trottoir, il y a des voitures qui passent. Et tout d'un coup il y a un bus qui arrive, ça allait passer sans danger, mais il crie à sa femme: chérie, je t'aime! Et il saute devant le bus, il est écrasé et il meurt. Alors, est-ce qu'on va dire la même chose du deuxième homme qu'on a dit du premier? Est-ce qu'on va dire qu'il est un héros? Ou est-ce qu'on va se demander s'il a peut-être une maladie mentale? Ou c'était un suicide? Il y a ceux qui veulent parler de la mort de Jésus-Christ comme étant une très grande démonstration de son amour pour nous. Mais la question se pose: un acte, même un acte exigeant un grand sacrifice, si cet acte est inutile, est-ce qu'on peut dire que c'est exemplaire? Est-il même un acte d'amour, de mourir une mort inutile? Mettez-vous à la place de ses disciples la nuit avant sa mort. La Bible nous dit que leurs cœurs étaient troublés. Et Jésus leur parle du fait qu'il va les quitter. Plusieurs fois en Jean, la nuit avant sa mort, il leur dit qu'il va les quitter. Mais dans leurs esprits, ils sont convaincus qu'ils ont plus besoin que jamais d'avoir Jésus auprès d'eux. Et leurs cœurs donc sont troublés. Comment Jésus peut-il vraiment les aimer et puis les quitter en même temps? Et donc ils lui disent, nous savons où tu vas, mais comment pouvons-nous même en savoir le chemin? Et pourtant, cette nuit terrible, Jésus insiste du fait qu'il va et même du fait qu'il doit s'en aller. Et que ce départ se fera par sa mort. Et en fait, Jésus parlait ainsi depuis un certain temps. Vous avez dans votre programme, là, devant Matthieu 16, 21, qui dit, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples, » quels sont les mots qui suivent, « qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il fallait qu'il souffre, beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fallait qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Ce mot traduit « il fallait », c'est exactement le même mot que Jésus a utilisé avec ses parents lorsqu'il avait 12 ans et qu'il leur a dit, c'est en Luc 2, 49, « Pourquoi venez-vous chercher? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. » C'est quelque chose que je dois faire. Et il dit, je dois mourir. C'est le même mot que Jésus utilise dans sa conversation avec Nicodème. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. De la même manière qu'il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que je m'en aille jusqu'à la croix. En fait, même dans cette conversation, Jean 3, versets 14 et 15, il dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, » et on retrouve encore ce même mot, « Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus utilise ce mot aussi avec la femme samaritaine, en Jean chapitre 4 et verset 24. Quand il dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. » Il faut. Mais quand les anges viennent, et là je vous invite à trouver peut-être en Luc, avec moi en Luc 24, à partir du verset 5. Luc 24. Au milieu du verset 5, on voit les anges qui parlent à ces femmes qui sont venues voir le tombeau, qui est maintenant vide, elles ne le savent pas encore, mais il est vide. Et les anges leur disent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. » Luc 24, verset 7. « Et qu'il disait, » et encore le même mot, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié. » Il faut qu'il soit crucifié. C'est comme ça que Jésus leur parlait. Et les anges disent à ces femmes, « Vous, même, ces femmes ne faisaient pas partie des 12. Apparemment, Jésus en parlait à tous ses disciples. Ne souvenez-vous pas de comment il vous parlait? » C'est-à-dire, c'est sa manière de parler et de s'exprimer. « Il faut que le Fils de l'homme soit crucifié. » et qu'il ressuscite le troisième jour. C'est ce même mot qui est utilisé en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25, où il dit, « Il faut qu'il règne, que Jésus règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » C'est-à-dire, c'est inévitable, il faut qu'il règne, on ne peut pas faire autrement. Et de la même manière qu'il faut qu'il règne, il faut qu'il soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il meure sur la croix. Alors j'espère qu'on puisse tous accepter, chacun ici, le fait que Jésus devait souffrir et qu'il devait mourir la mort de la croix. Et le fait aussi qu'il a lui-même reconnu comme un fait. Mais nous devons nous demander la question, pourquoi? C'est la question naturelle, je crois. S'il faut... Pourquoi? C'est ce que demandent les enfants hein, quand on leur dit « il faut faire ceci ». La première question qui vient à l'esprit, mais pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas d'autre option à envisager? Et je veux vous donner trois choses ce soir. Il y a peut-être d'autres aussi, mais pour notre considération, trois choses, trois mots qui commencent chacun avec la lettre P, pour nous aider à le capter, le garder, le préserver même dans la mémoire ce week-end. C'était d'abord une nécessité prophétique. Prophétique. Et là, je vais lire un verset en Matthieu, et puis je vais revenir en Luc. Donc si vous voulez me suivre en Matthieu, vous pouvez, mais sinon restez en Luc, parce que je vais y revenir. Matthieu 26, versets 53 et 54, nous disent ceci. Matthieu 26, 53. « Penses-tu donc ?» Jésus est en train d'être arrêté ici, et il dit à Pierre, « Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père à l'instant même, et il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles ? » Voyez le lien avec les Écritures. Il faut que les Écritures s'accomplissent. C'est pour ça que c'est une nécessité prophétique. Et puis vous êtes en Luc, regardez chapitre 22 et verset 37. Car il est écrit, il a été mis au nombre de malfaiteurs ou de criminels, une citation d'Ésaïe que nous avons lue tout à l'heure. Et puis Jésus donne... Ça, c'est l'interprétation de Jésus-Christ à Ésaïe, chapitre 53. Jésus dit, cette parole doit s'accomplir pour moi. Et puis, il le redit presque. Car tout ce qui a été écrit de moi va s'accomplir. Regardez le chapitre 24, Luc 24, et les versets 25 et 26. Je lis ici dans la traduction du Semeur. « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. » Les prophètes ont annoncé des choses. Et puisque les prophètes ont annoncé des choses, notez le verset 26, « Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ?» C'est une nécessité liée à la prophétie. Et puis regardez Luc 24, verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Jésus parle à ses disciples après sa résurrection, mais c'est ce que je vous disais avant, qu'il fallait, et notez comment c'est dit ici, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament. Il fallait que ces choses s'accomplissent. Et donc ça devient la prédication des apôtres en Actes. Actes chapitre 1, verset 16. Pierre dit, « Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David. » Il fallait que s'accomplisse ces choses. Et puis Actes 17, Paul et Silas passèrent par, il y a plusieurs villes ici, et ils arrivent dans une synagogue à Thessalonique, et Paul entra selon sa coutume, pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant, d'après les Écritures, notez cela, que le Christ devait souffrir. Donc, la raison pour laquelle Jésus a souffert, la raison pour laquelle c'était une nécessité, c'était tout simplement parce que c'était prophétisé. Alors, il faut comprendre que Dieu ne prédit pas simplement l'avenir. Dieu, par sa parole, effectue l'avenir. Hein, c'est comme au tout début de la Bible, quand Dieu dit que la lumière soit, ce n'est pas juste une prédiction que quelque chose va arriver. Non, quand il dit que la lumière soit, puisqu'il l'a mis dans le présent, eh bien dans le présent, la lumière fut. Et quand Dieu dit la Vierge deviendra enceinte, alors par sa parole même, La Vierge deviendra enceinte. Il faut que ces choses arrivent. Une fois la promesse est faite, toute l'énergie, toute l'action divine, tout ce que Dieu fait, tout ce qui concourt dans le monde, nous dirige vers l'accomplissement de ses promesses. Cela devrait nous donner beaucoup de confiance, beaucoup de paix même dans nos cœurs, que toutes les promesses en Christ sont oui et amen. Parce que s'il l'a dit, ne le fera-t-il pas? Tout ce qu'il a promis. Et puisque Dieu en a parlé de ces choses, il n'y avait pas d'autre option que ces choses arrivent. Mais il faut creuser plus que cela. Il n'y a pas seulement une nécessité prophétique. Voici le deuxième mot. Il y avait aussi une nécessité pénale. Et le mot pénal, c'est relatif aux peines infligées. Comme qui sanctionne un délit. On a fait un délit, après il y a une peine pour ce délit. Nous parlons du droit pénal ou d'une pénalité, une peine réprimant un délit. Et je vous invite à voir en Romains 3, verset 23, un texte très connu. Vous connaissez la plupart par cœur, ce premier verset en tout cas, le verset 23, qui dit, vous pouvez même le citer avec moi, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mais je veux que vous notiez ce qui suit, parce qu'il y a un point virgule, ce n'est pas la fin de la phrase. Il y a le mot « et » qui suit. Donc, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est, on nous met, si vous voulez, tous sur le même niveau, avec le même problème et avec la même peine. La peine, c'est qu'on est privé de la gloire de Dieu. On ne peut pas la partager. On exclut de la voir, de la connaître. Mais verset 24 nous dit, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Quelle grâce! Mais comment ça se fait? Quel moyen? La réponse nous est donnée. C'est par le moyen d'une rédemption, d'un rachat, d'un prix payé pour nous. Et cette rédemption se trouve en qui? En Jésus-Christ. Et on dit, j'ai besoin de plus d'explications. Comment ça se fait? On est tous pécheurs, on est tous privés de la gloire de Dieu. Et puis Dieu vient et il nous sauve par sa grâce. Il le fait, oui, par une rédemption. Ok, Jésus donc paie un certain prix, parce que cette rédemption est en Jésus-Christ. Explique-moi un peu plus. Et le verset 25 nous donne cette explication plus profonde. En fait, il dit, c'est lui, c'est Jésus que Dieu a destiné à être. Et ce mot « destiné » nous parle du fait de prévoir, de prophétiser. C'était déjà préparé en avance, en fait. Il y a un sens dans lequel Jésus a été crucifié même avant la fondation du monde. Et Jésus est donc destiné par son Père à être, notez chacun de ces mots très importants, à être par son sang. Nous sommes donc au moment de sa mort, n'est-ce pas? Par son sang. Ça nous fait penser à la croix. Ils l'ont percé. Et par son sang, par sa mort sur la croix, il a été destiné à être pour ceux qui croiraient. Ce n'est pas pour tous, c'est pour ceux qui croient. Et notez puis cette expression très importante. Elle mérite d'être soulignée. Deux mots. Victime propitiatoire. Jésus a été destiné à être victime propitiatoire. Donc, quel est le rançon qui a été payé pour nous? Quelle est la rédemption qui a été payée pour nous? C'est Jésus-Christ qui est une victime propitiatoire. Cette rédemption a été réalisée par Dieu qui a présenté le Christ, Jésus, en fait, comme cette ce sacrifice d'expiation, ou plus précisément, comme dit le texte, hein, comme cette victime propitiatoire. Donc on voit que Dieu lui-même, le Père, a provoqué la mort de Jésus, de telle sorte que dans sa crucifixion, Jésus est mort. Lui, Pierre va nous dire, le juste pour les injustes. Dieu provoque tout cela, la mort de Jésus, le juste pour les injustes, et a ainsi rendu Dieu favorable ou propice. C'est ce que veut dire ce mot victime propitiatoire, qui rend Dieu propice envers nous, envers ceux qui autrement n'auraient eu affaire que à sa colère. Et donc, la mort de Christ est une propitiation, elle rend Dieu propice. Et bien sûr, c'est qui fournit ce sacrifice? Ce n'est pas l'homme qui vient à Dieu et cherchant quelque chose à le... Non, c'est Dieu lui-même qui offre cette victime. Et donc, il y a un sens profond dans lequel Dieu se propitie lui-même, c'est-à-dire qu'il fournit gracieusement le sacrifice qui apaise sa propre colère. Êtes-nous conscients du fait que Dieu ne pouvait pas sauver un seul humain, le meilleur même, sans la mort de Jésus-Christ sur la croix pour ses péchés? Pas un seul. Et le cœur de l'évangile pour le chrétien se trouve vraiment ici, dans cette réalité de la substitution. 1 Corinthiens 15, verset 3, l'apôtre dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » C'était prophétisé, mais c'était pour nos péchés. C'était une mort substitutionnelle, une mort pénale pour nous. C'est-à-dire, quand Jésus est mort, ce n'était pas un accident, ce n'était pas simplement un martyr. Quand Jésus est mort, c'était la peine capitale qui s'exerçait de la part de Dieu le Père sur Dieu le Fils. Et dans cette heure très sombre, Christ a réalisé pleinement, il a reçu pleinement la réaction divine contre le péché qui existait dans la race humaine. La colère de Dieu contre la race humaine tombe sur Jésus. Et Christ a subi le même châtiment que moi je devais subir en raison de mon péché. Et donc quand je dis le même, je dis essentiellement le même poids, la même pression, si on peut l'imaginer comme ça. Bien qu'il n'y ait pas eu tous les mêmes détails, tels que la durée ou autre. Et Jonathan Edwards a exprimé cette pensée comme ceci, je trouve très tendre. Il a dit « Dieu l'a traité comme s'il avait été extrêmement en colère contre lui et comme s'il avait été l'objet de son effroyable courroux. Et cela rendait toutes les souffrances du Christ d'autant plus terribles pour lui du fait qu'elles venaient de la main de son Père qu'il aimait infiniment et dont il avait fait l'expérience éternelle de l'amour infini. » Cette colère qui tombe sur Jésus ne vient pas d'un inconnu, ne vient pas d'un ennemi. Ça vient de son Père, qui lui a dit quelques jours avant, « Tu es mon fils bien-aimé. » Il avait dit au début, lors de son baptême, plusieurs fois dans la vie de Jésus, aussi sur le mont de transfiguration, il y a au moins trois reprises où le Père lui dit, c'est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Et là, il arrive sur la croix, et c'est la colère. Et c'est le châtiment, et c'est le jugement. Il dit, en cet en effet, la colère de Dieu, ou c'est à cause de sa propre colère que Dieu le Père l'a abandonné. Quand Dieu l'a abandonné, c'est par sa colère. C'est pourquoi le Christ s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu séparé de Dieu. C'était donc une nécessité prophétique, une nécessité pénale, et dernièrement une nécessité personnelle. Il y a dans le Nouveau Testament, à maintes reprises en fait, cette nécessité de rendre la mort de Christ personnelle. Et on le voit par exemple en Paul. Il va dire aux Galates, chapitre 2, verset 20, pas Christ a été crucifié seulement. Mais qu'est-ce qu'il dit, Galates 2, 20 ? J'ai été crucifié avec Christ. Vous voyez ce lien très personnel ? Pas que Jésus a été crucifié là, loin. C'est pas seulement qu'il prend la pénalité de mes péchés, mais il le prend de loin, et moi je vois de loin la croix et tout ce que Christ a fait pour moi, mais non. Paul dit non, c'est plus que ça. Moi, j'ai été crucifié avec Christ. Il parle dans le même verset du Fils de Dieu qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi, mais j'ai été crucifié avec lui. Et en Romains chapitre 6, si vous voulez, vous pouvez trouver ces paroles. Là, il dit vous ici. Il parle aux chrétiens. Il dit, verset 3, ignorez-vous que tous qui avons été baptisés, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Il y a un lien, nous avons été baptisés, nous, dans la mort de Jésus-Christ. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Il parle ici de notre union avec Jésus-Christ. C'est quelque chose de très personnel. En fait, en Romains 5, on nous montre la mort du Christ pour nous, et dans Romains 6, c'est notre mort avec le Christ. Et c'est ce double aspect de l'expiation de Christ, une fois pour toutes, un seul, il est mort pour nous. Hein? Et il y a un autre verset qui dit quand un meurt, c'est de Corinthiens 5, 14, tous sont morts. Et la mort de Christ pour tous signifie inévitablement la mort de tous. Et donc nous sommes tous morts en lui, dit ce verset. Et je peux donc parler de mon témoignage. Dans ce sens, il y a plusieurs manières de parler de son témoignage. Mais je pourrais vous dire que j'étais autrefois mort dans mes péchés. Et j'attendais la sentence de mort. J'étais déjà jugé, comme dit Jean 3. Et dans ma condition de condamné à mort, mon besoin était la vie. Je devais fuir les régions de la mort. Je devais trouver la vie. Et cette vie, j'ai appris qu'elle était en Christ. Je devais avoir le Christ pour ma vie. Mais pour avoir le Christ, je devais m'emparer de lui. Mais où est-ce que je vais trouver le Christ ? Où est-ce que je vais trouver la vie que Christ me donne ? Eh bien, j'ai découvert que je trouve la vie que Christ me donne à la croix. À la croix. Au lieu de la mort. Et donc, je me suis approché de lui. Et j'ai mis ma foi en lui comme celui qui est mort pour moi, qu'il aime. Et c'est à ce moment-là que j'étais justifié par la foi en Christ. J'étais rendu vivant en Christ. Mais tout cela, j'ai trouvé la vie à l'endroit de la mort. J'étais rattaché à Christ, uni à lui, dans sa mort. Pas dans le fait qu'il est mon exemple, mais dans sa mort. J'étais uni à lui, et puis dans sa résurrection. Et donc le fondement de notre rédemption et notre participation, non seulement à la mort, mais aussi à la résurrection de Christ. Nous le voyons ici en Romains 6, verset 3, en Éphésiens 2, verset 5 et 6, en Colossiens 2, verset 12 et 13, Colossiens 3, verset 1. Et dans les moments les plus importants de l'œuvre rédemptrice du Christ, les croyants sont tellement unis à lui que l'on peut dire qu'ils sont avec lui. Hein, de sorte que ces événements ont des conséquences durables pour nous, les croyants, dans nos vies présentes. Et il y a des verbes, on voit ici avec ce préfixe en grec, ce « soun » avec, hein, « crucifié avec Christ », Galates 2:20. enseveli avec lui, Romains 6, 4. Nous vivons aussi avec lui, Romains 6, verset 8. Et donc nous sommes nés en Adam, et c'est pour ça que nous sommes pécheurs. Notre relation à Adam nous assure la mort, et elle est naturelle, c'est par naissance que nous sommes en Adam. Je peux dire, j'ai péché en Adam. Mais notre relation avec Christ n'est pas naturelle. Notre relation avec Christ vient à travers sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. C'est à ce point-là où je suis uni à Christ. Il n'y a pas de lien avec Christ sans sa mort et sans sa résurrection. Et ici en Galates 2.20, ces mots « crucifié avec Christ », en fait c'est un seul mot dans le texte original. Ça signifie « co-crucifixion ». Je t'ai co-crucifié avec Christ. Ce n'est pas quelque chose que j'expérimente, hein. Mais c'est quelque chose de légal et c'est quelque chose de vrai. Dieu me regarde comme crucifié avec Christ. C'est la doctrine de mon union objective avec le Christ. Et ma relation à Christ est réelle. Et donc elle vient à travers une participation de sa mort ou à sa mort. Et tout comme ma relation avec Adam est réelle et vient à travers une participation en son péché. Uni à Adam parce qu'on a, j'ai péché en Adam, uni à Christ parce que je suis mort en Jésus-Christ. Alors je comprends pourquoi je suis en Adam. On peut dire que c'est la faute de mes parents, hein, je suis né comme ça. Ils m'ont amené dans ce monde, ce lien avec Adam, c'est par nature. Mais comment puis-je être en Christ ? Mon union avec Christ ne vient pas par nature, mais la Bible est très claire, elle vient par la foi. C'est par grâce, la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et quand nous mettons notre foi en lui, en fait la Bible dit que nous croyons en Christ, hein, nous croyons dans Christ, c'est par la foi en fait que nous entrons dans Christ. Je peux dire que la mort de Christ, non seulement quelque chose de prophétisé et pénal, mais quelque chose d'extrêmement personnel. Parce qu'il est mort pour moi. Et je suis en lui, enseveli avec lui et ressuscité avec lui par la gloire du Père pour marcher maintenant en nouveauté de vie. Amen.